Je suis donc devant vous pour parler dans le cadre de ce cycle sur l'histoire de l'esclavage, des esclavages au Congo. Nous avons donc une carte qui nous permet, il faut que je m'habitue, voilà, à voir ce qui se passe. Je voudrais rappeler d'abord ce qui est sur la notice qu'on vous a donnée, que je suis historien. Et que, en schématisant, il y a deux manières de faire l'histoire. Une manière que je n'aime pas et que je ne pratique pas, qui est l'histoire récit, et une manière que je pratique volontiers, qui est l'histoire problème. Étant entendu que l'histoire se termine toujours par une narration, et que pour faire cette narration, il n'y a de bonne narration que lorsque les questions relevant de l'histoire problème ont été au moins posées, toujours clarifiées et peut-être résolues. Donc ce que je vais présenter aujourd'hui relève davantage de cette histoire problème que de l'histoire récit, parce qu'il y a beaucoup de questions que nous n'avons pas encore résolues. Il faut d'abord s'entendre sur le Congo dont nous parlons. Dans l'acception, la représentation du Congo par certaines couches de l'opinion congolaise, on parle volontiers des trois Congos. C'est le Congo dont on m'a demandé de parler, mais dans la représentation que certains groupes de population dont nous parlerons en conclusion ont du Congo, on évoque volontiers les trois Congos et non pas le seul Congo Kinshasa. Bien sûr, l'autre Congo qui fait face à la République démocratique, le Congo-Brazzaville, et aussi, bien sûr, l'Angola, ou une grande partie de l'Angola, qui, de leur point de vue, fait partie d'un espace qui serait le Congo, lié non seulement par les liens de la culture, mais lié aussi par le partage, jusqu'à un certain point, d'une histoire commune. Notre Congo, c'est donc la République démocratique du Congo. Je verrai si nous devons revenir sur la question des trois Congos. Et cette République, évidemment, pose toute une série de questions. Il y a des historiens, et non des moindres, qui considèrent que ce territoire avait en quelque sorte une vocation soit naturelle, soit divine, selon les opinions, une vocation à devenir l'État qui est constitué aujourd'hui. Et la propagande de l'État, l'hymne national, les dits et écrits des journalistes évoquent ce caractère presque naturel qui serait à la base de la formation du Congo. Évidemment, c'est un point de vue que je ne partage pas. Il n'y a pas de territoire étatique qui soit naturel, et on ne peut pas dire non plus que la très longue durée qui a abouti à ce territoire-ci a été une sorte de long voyage tranquille qui, par une sorte de nécessité ou de fatalité, a abouti à la création de ce territoire. En fait, on sait qu'il est né à un moment très particulier, il est né des combinaisons de la diplomatie internationale et de l'habileté de quelques diplomates qui ont réussi donc à bouleverser totalement la géographie et la géographie prise en charge par les peuples de cette région. Par exemple, ce qui nous apparaît beaucoup comme une absurdité, à établir une frontière de part et d'autre le long de ce fleuve, et de part et d'autre de ce fleuve, nous avons donc deux pays, alors que le discours commun est une sorte de proverbe au Congo, chanté d'ailleurs par l'un des grands orchestres du Congo, dit ceci: Ebaléa Congo, Ezalopangute, Ezanzela. Le fleuve Congo n'est pas une clôture qui séparerait deux domaines, deux terrains, deux propriétés différentes, ça n'est que un lieu de passage. Donc c'est ce lieu de passage réunit donc des espaces extrêmement différents les uns des autres, ce qui donc met en question cette thèse de la vocation naturelle de cet espace à devenir État. Nous avons donc dans cette grande partie du pays une sorte de masse forestière en fait par rapport à notre problématique qui est ouverte à la circulation. Nous n'avons ici que le fleuve Congo qui a évidemment de très nombreux affluents, lesquels ont à leur tour de nombreux affluents. Donc ça veut dire que la circulation à l'intérieur de cet espace est une circulation facile et permanente. Donc nous n'avons rien à voir ici avec le cœur des ténèbres, ni avec le continent mystérieux. Nous avons en outre donc dans un grand tiers sud, la partie correspondant à des savanes, qui évidemment est, on ne voit pas de cours d'eau, mais il y a de très nombreuses routes ou pistes, appelez-les comme vous voulez, qui donc facilitent la circulation. Cette question de la circulation est importante, puisque lorsqu'on parle de l'esclavage, notamment dans sa dimension de ce qu'on appelle encore la traite, on évoque évidemment des circulations continues et parfois extrêmement importantes. On peut dire aussi que cet espace présente des polarisations qui ont des effets durables. Nous avons donc d'une part la polarisation qui lie le Congo à l'espace atlantique. La question reste évidemment discutée de savoir si la navigation, les pratiques de circulation sur cet espace n'ont guère commencé qu'avec, disons, la mise en place du système esclavagiste, ou s'il y a eu ou non des usages de cet espace qui auraient eu un retentissement vers l'intérieur. On pense par exemple au commerce du sel, et il pose la question de savoir avec quoi on trafiquait ce sel. Nous avons ensuite une polarisation en relation avec l'océan Indien, qui paraît bien loin par rapport à cette carte, mais il faut penser que ce grand pays qui correspond à la Tanzanie est un pays de savane, un lieu de circulation extrêmement facile. On a oublié d'ailleurs sur cette carte les îles de Zanzibar et Pemba, et nous avons là un réseau qui est extrêmement important, dont la datation est problématique, mais qui est probablement beaucoup plus ancien que le réseau lié à l'Atlantique, lequel réseau d'ailleurs permet de connecter cet espace et donc tout l'est du Congo à une distance plus ou moins grande des frontières actuelles, non seulement vers l'océan Indien, mais au-delà avec le Moyen-Orient, avec la Perse, avec le Pakistan, l'Inde et peut-être plus au-delà encore. Et puis nous avons ce qui est peut-être moins connu, la polarisation, en gros le long du système du fleuve Nil, la polarisation qui met donc une partie du Congo en relation avec le système nilo-soudanien, qui donc conduit justement jusqu'au Caire et peut-être avec des branchements vers les autres régions de traite. Donc un espace extrêmement difficile à saisir et à délimiter. Et par rapport à cela, nous avons déjà un problème. La vision du Congo comme un pays appelé par la nature ou par des lois mystérieuses à devenir un État ne correspond pas à la réalité de ce à quoi l'historien a affaire. Ces polarités ne sont pas seulement des constructions de l'historien. Ce sont des processus qui ont des effets jusqu'aujourd'hui. Par exemple, si l'on prend les langues du Congo, nous voyons bien que dans toute cette région frontalière du Gabon et de l'Angola, nous avons un vocabulaire extrêmement riche que malheureusement les linguistes congolais n'ont pas encore étudié comme il le faudrait dans la perspective d'une linguistique historique, un vocabulaire de ces langues à base Congo dans lesquelles on trouve de très nombreux noms, des noms de lignage, des noms de personnes qui sont tirés plus ou moins directement du portugais. Nous avons aussi une autre langue, une des langues nationales du Congo, le Lingala, qui était au départ la langue du fleuve, la langue donc de ces gens venus de partout et qui avaient en commun de pratiquer le commerce du fleuve Congo, en gros entre, je vais changer de carte, en gros donc entre Kisangani et Kinshasa, donc la partie du fleuve Congo qui est navigable, et aussi en gros entre l'embouchure du fleuve Congo et le fleuve Ubangi. Aujourd'hui, on voit que entre le Sango, qui est l'une des langues de la Centrafrique, et le Lingala, qui a d'ailleurs exactement la même histoire, il y a plus qu'une parenté dans le vocabulaire, dans la tonalité, etc. Une autre chose intéressante, évidemment, c'est que le Congo a quatre langues nationales, le Kikongo, le Lingala, qui est diffusé partout, le Luba, bon, je n'aurai pas le temps d'en parler parce que ça nous engagerait trop loin, mais la troisième langue qui est importante, c'est le Swahili. Le Swahili, en fait, qui vient, dont le nom vient de Sahel, c'est-à-dire de ce rivage de la mer, qui donc est directement connecté à cette polarité indo-océanienne, qui donc a été d'abord la langue de l'Est du Congo et qui est en train de devenir de plus en plus une de ses langues nationales. Donc les effets de ces polarités sont visibles à un niveau macro, le niveau des langues qui sont parlées aujourd'hui, mais ces effets sont visibles également à un niveau micro, c'est-à-dire à très petite échelle, au niveau de l'histoire des individus. Le discours juridique, politique et populaire du Congo est extrêmement restrictif, timoré, peureux sur la question de la nationalité. Et la constitution congolaise dit que sont congolais de naissance toutes les personnes nées de parents dont l'un au moins appartient à l'une des tribus, c'est le mot qui est dans la constitution, à l'une des tribus ou des ethnies qui faisaient partie du Congo en 1885, juste à la veille de la conférence de Berlin. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas d'autres identités qui soit en relation avec l'histoire qui nous préoccupe aujourd'hui. Or, ces cas existent. Ils existent peut-être en nombre plus important que nous ne pensons. J'ai rencontré l'année dernière, au moment où précisément on discutait de cette question d'identité, dans une vision très très exclusiviste, où donc j'ai rencontré un jeune homme qui m'a raconté l'histoire de la descendance de Peter Holm. Ce Peter Holm est un natif des Pays-Bas, mais malheureusement on n'a pas une carte de l'Europe, qui donc, dans les années 1840-1850, au moment où la traite clandestine est encore très active sur la côte, mais où moralement elle est fortement critiquée, et où, sur le plan technique, par rapport à la navigation le long des côtes de l'Atlantique, et évidemment par rapport à la traversée, avec le contrôle exercé notamment par la Royal Navy, un peu moins par la marine française, ce commerce devient quelque chose de mauvais. Et Peter Holm fait donc un grand voyage qui continue aujourd'hui. Donc, des Pays-Bas, il le passe en Angleterre, qui a été à la fois l'un des champions de la traite esclavagiste et qui va devenir le champion de l'anti-esclavagisme. Il s'y installe et va suivre le chemin que quelques autres figures que nous connaissons ont suivi. Donc, il vient d'abord s'établir à la Gold Coast. Non, évidemment, trompeur, parce que cette Gold Coast a été longtemps partie prenante de ce qu'on a appelé la Slave Coast. Et donc, jusqu'à la fin du XVIIIe, un certain nombre de négriers se sont installés en Gold Coast et ont fait souche, donnant des familles qui, par la suite, se sont noircies, si vous me permettez cette formule, et ont donné à la Gold Coast une partie de son élite intellectuelle. On ne savait pas, jusqu'à récemment, que cette histoire-là se répète à plusieurs endroits. Donc, Peter Holm s'est installé d'abord en Gold Coast vers 1850, où il a fait souche avec des enfants qui s'appellent Kodjo, Kofi, Kwame, donc qui sont, on va dire, de culture akan. Un de ces enfants vient s'installer sur la côte congolaise, à Boma, qui est donc, le nœud essentiel de la sortie des esclaves et de l'entrée des marchandises données en échange. Il se marie donc dans une famille de traitants négriers. À la troisième génération, l'un de ses fils monte jusque dans la région forestière pour faire du commerce. Et à la quatrième génération, un de ses enfants... Un de ses petits-enfants décide donc de quitter cette région de la forêt pour venir s'installer à Kisangani. Et donc, c'est la première preuve que nous avons, que j'ai, de la connexion entre le réseau, le système nilo-soudanien et le territoire du Congo. Ce garçon va épouser ici une femme qu'elle qualifie de turque. En réalité, elle n'a rien à voir avec la Turquie. C'est une femme métisse, née donc d'une fille du pays et de quelqu'un qui était lui-même déjà un métisse, d'une soudanaise et d'un européen. Cette famille au Congo est une famille aujourd'hui extrêmement importante, puisque dans tout ce cheminement, ces gens qui sont des grands hommes, hein, Mokonzi, comme on dit, enrichis notamment par la traite et le commerce légitime, vont se marier avec des filles des notabilités locales et donner naissance aujourd'hui à l'une des grandes familles de la vie politique et économique congolaise. Il y a donc, je pense, dans les traces du Congo d'aujourd'hui, il y a des choses extrêmement pertinentes qui expriment le poids, la pesanteur des effets de l'esclavage et qui ne sont pas encore connus. Ce n'est pas moi qui ai mis le pluriel qu'il y a dans le titre de cette conférence, mais j'ai beaucoup apprécié cette espèce de complicité implicite entre les organisateurs et moi, parce qu'il n'y a pas un esclavage au Congo, il y a des esclavages. Des esclavages différents en termes d'espace, en zone forestière ici et en zone forestière ici à l'est, ce ne sont pas les mêmes esclavages. Ce n'est pas le même esclavage en zone de savane et en zone forestière. Ça n'est pas non plus en zone de savane, entre ces savanes frontalières directement des réseaux qu'on appelle parfois luso-africains, qui draine donc des marchandises, y compris des hommes, vers l'Atlantique, et la partie beaucoup plus à l'est, où se trouvent des ressources importantes qui valent plus ou mieux que les hommes, et en particulier l'une des ressources qui a fait plus tard le malheur du Congo, le cuivre, qui était l'un des produits importants dans tout le commerce de l'Afrique australe. On dira aussi qu'il y a un pluriel, une pluralité en termes de temps. En effet, les esclavages que le Congo a connus ne s'inscrivent pas dans le même temps, ni dans la même durée. Elles ne ressemblent en aucune manière à des poupées russes qui s'emboîteraient les unes dans les autres. Ce serait trop beau et trop facile. Et donc, de ce point de vue, je récuse absolument cette espèce de récupération de la théorie des pierres d'attente, que certains ont utilisé à une époque à propos du christianisme et qu'ils utilisent aujourd'hui à propos de la traite. Je pense en particulier au livre de quelqu'un qui a été mon maître l'année où je passais l'agrégation, Jacques Herz, Négrier en terre d'islam, qui prétend donc que les esclaves étaient disponibles, que les musulmans, donc dans la région qui nous intéresse, les musulmans, donc, à partir de la côte de l'océan Indien, l'auraient pratiqué, auraient mis les réseaux et les pratiques en place, et que donc, à partir de la fin du XVe siècle, les Européens n'ont fait que prendre en charge, justement, ces pierres d'attente qui attendaient donc d'être mieux exploitées. Alors, ce qui m'inquiète, et dont je voudrais faire part et que je voudrais partager avec vous, c'est une sorte de perplexité. Peut-être plus que cela, une sorte d'angoisse épistémologique devant cette chose incroyable qui est le silence presque absolu dans la société congolaise touchant à la question de l'esclavage. Voilà une chose dont on ne parle pas. On, c'est-à-dire le commun des citoyens, on, c'est-à-dire toutes ces autorités provinciales, locales, nationales, qui aiment beaucoup la patrimonialisation de l'histoire du Congo, ont aussi... mes pères et mes collègues, les jeunes chercheurs, les maîtres d'école, les professeurs et les chercheurs eux-mêmes, on ne parle pas de l'esclavage. Ça paraît d'autant plus étonnant que tout autour du Congo, on ne parle que de ça. Qu'il s'agisse des études ou qu'il s'agisse de la dynamique liée à cette initiative mondiale dite de la route de l'esclave, on en parle en Angola. On en parle au Congo voisin, récemment à Addis Abeba, menant une équipe de l'UNESCO, nous avons été apostrophés par l'ambassadeur du Congo, qui disait « Mais qu'attendez-vous pour donner à la baie de Luango le statut de patrimoine, d'inscription dans le patrimoine mondial de l'UNESCO ?» On en parle évidemment au Gabon, on en parle en Tanzanie et surtout à Zanzibar, mais on en parle aussi le long de toutes ces cités au Congo, silence radio. Donc, à l'université de Kinshasa et dans les autres universités et instituts supérieurs du Congo, un examen rapide montre que depuis une vingtaine d'années, il n'y a pas de thèse ni de mémoire sur la question de l'esclavage. Lorsque nous regardons du côté des écrivains, on constate aussi que ni les gens de théâtre, ni les romanciers, ni les nouvellistes ne parlent de l'esclavage. Il faut évidemment fouiner profondément pour trouver tout de même un roman qui a été publié l'année dernière par Dieudonné Mufankolo Mundel, un roman qui s'appelle « Les derniers esclaves ». Évidemment, je me suis jeté dessus avec gourmandise. Ben non, il n'est pas du tout question de l'esclavage au Congo. Il est question d'une caravane négrière qui se serait perdue au centre de l'Atlantique et qui aurait donné par la suite toute une généalogie importante qui finit par, comme par hasard, par être découverte par un navire militaire américain à la suite de l'élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis. Ça fait un peu utopie ou île au trésor réchauffé et remâché, et disons que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les discours populaires, qui sont multiples, notamment la musique populaire congolaise qui est connue, aborde aussi très peu, presque pas du tout, cette question de l'esclavage. Sauf au début des années 1970, une chanson extrêmement importante, lancée par l'un des grands musiciens de cette période, Verkis, qui s'intitule « Nakomi Tunaka »,« Je me demande souvent », et qui donc est une réflexion et une remise en cause de la distinction noir-blanc, qui naturellement est une invention liée au processus de la mise en esclavage. La peinture populaire congolaise, dont vous savez que certains disent, je n'en suis pas tout à fait convaincu, qu'elle est porteuse de messages historiques, surtout de la période coloniale, eh bien, il n'y a rien sur la période de la traite. Donc, je voudrais, pour une fois, faire violence à ma réserve naturelle et engager une sorte d'égo-histoire pour vous dire comment, jeune homme né à Kinshasa, comment j'ai entendu parler de l'esclavage et comment j'ai moi aussi parlé de l'esclavage. Donc ce silence ou cette impensée est un produit d'une histoire récente, parce que il y a quelque temps, on évoquait ces choses. Il y a d'abord l'histoire d'un stade du Congo, un stade que tout le monde connaît aujourd'hui, le stade de Tata Raphaël. C'est le stade où, en 1974, a eu lieu le fameux combat de boxe entre Mohamed Ali, alias Cassius Clay, et George Foreman. Donc ce stade est très connu, il y a eu un film fameux dessus. Ce stade a été construit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, entre 1947 et 1952, peut-être 1956, à l'initiative d'un missionnaire belge de la congrégation des Pères de Skeut, qui s'appelait Raphaël de la Quétule, et qui, comment dire, tout en participant à la vision civilisatrice, entre guillemets, de la colonisation, cette vision qui voulait que les habitants du Congo sortent des villages, deviennent des ouvriers pour les mines et pour la transformation de produits agricoles, était en même temps très inquiet de ce brassage urbain, de cette émancipation sociale et culturelle, de ces lieux de plaisir nombreux où on jouait de la musique, où il y avait ce qu'on appelait à l'époque les femmes libres, et il était de ceux qui pensaient « mens sana in corpore sano » qu'il n'y a de corps sain, qu'il n'y a d'esprit sain que dans un corps sain. Donc il faut que les Congolais arrêtent de boire, arrêtent de danser, rentrent chez eux le soir pour qu'ils soient sains d'esprit et d'école. Et pour aller encore un peu plus loin dans ce sens, il s'est mis en tête de développer la pratique des sports et le spectacle des sports. Donc il a fait construire à Kinshasa, dans l'entre-deux-guerres, un premier stade, dénommé naturellement Reine-Astrid. Et puis, au lendemain de la guerre, il s'est lancé dans la construction d'un deuxième stade, dénommé d'abord Stade Roi-Baudouin, débaptisé à l'initiative de Mobutu pour devenir le stade du 20 mai, est devenu aujourd'hui le stade Tata Raphaël. Alors je me souviens que je devais avoir 8 ou 10 ans, je ne sais pas trop, que la construction de ce stade avait coûté, nous a-t-on dit, beaucoup d'argent, et à un moment donné, le père Raphaël de la Quétule, qui était déjà surnommé Tata Raphaël, Papa Raphaël, avait besoin de la contribution directe des Congolais. L'école, à l'époque, c'est par définition pratiquement l'école missionnaire et l'école missionnaire catholique. Donc nous étions une flopée de gamins de cet âge-là, entre 8 et 10 ans, utilisés donc à transporter des seaux de caillasse, des camions vers le chantier du stade. Et pour nous activer dans le travail, on nous demandait de chanter une chanson de travailleurs, chanson qui, par cette espèce de ruse qu'ont les petits par rapport aux grands, chanson que les jeunes hommes que nous étions ont apprise, mais dans une version modifiée. Cette chanson, En gros, c'est ceci, vous imaginez ces jeunes gens qui se passent des seaux de pierre. Je ne me représente pas combien ça devait peser, mais ça pesait lourd. Et pour se donner de la force, chantez donc « Salongo, Salongo, Alingamo Sala », répétez plusieurs fois. Ce qui veut dire « Salongo, Salongo, aime le travail ». Cette strophe était chantée très haut. Et puis, en dessous, « Salongo, Salongo, Alingamo Sala », on chantait ceci. « Bisoto komi baumbu na binoto zako sala monsala impunda ». Nous sommes devenus vos esclaves, nous faisons un travail de cheval. Donc, ça veut dire que dans le Congo des années 50, il y avait des gens qui avaient appris à des jeunes de 8, 9, 10 ans le fait que ce travail-là, un travail non payé, non reconnu, un travail forcé, puisque par définition, tout élève de l'école missionnaire devait faire ce travail, que ce travail-là, c'était un travail pour les Baumbu, c'est-à-dire pour les esclaves. Ça, c'était donc la première fois, la découverte de l'esclavage, disons au milieu des années 1950. Et puis, il y a eu un autre moment, le moment où, étant donc dans cette école missionnaire, nous apprenions toute une série de choses qui revenaient constamment sur l'histoire de l'esclavage. Mais une histoire pas facile à raconter, surtout lorsque cet esclavage n'était pas l'esclavage interne, mais l'esclavage, disons, externe. Donc il y avait une double affirmation qu'il était très très difficile d'assumer. Donc, la première affirmation, c'est cette histoire fondatrice de la colonie belge qui expliquait que, en fait c'est l'autre carte qu'il nous faut. Ah. Que si le Congo est devenu une colonie et si le Congo a dû passer par les duretés de la colonisation, c'est parce qu'il a bien fallu que quelqu'un vienne d'ailleurs pour libérer les Congolais réduits en esclavage ou menacés d'esclavage par ce qu'on va appeler les Arabes et les arabiser. Et donc il y a toute une propagande, toute une littérature, toute une série de manuels d'histoire dans lesquels les enfants sont tenus à dire que nous avons été libérés de l'esclavage par les Arabes et les arabiser. Vous noterez d'ailleurs que dans ce mot « arabiser », il y a tout ce qui est commerce est retiré de ça. Il s'agit d'une affaire de race. Nous avons donc de méchantes personnes venues d'ailleurs, des Arabes, qui sur place ont réussi par mariage ou par viol à donner naissance à des arabisés, lesquels donc font commerce des esclaves et ont été mis à mal par les colonisateurs belges. Mais exactement à la même époque, dans les mêmes classes, dans les cours différents, les cours de religion en particulier, les jeunes gens que nous sommes apprennent aussi que nous serions les descendants du fameux Cam, et que donc, à la suite de ce grave péché de Cam à l'égard de son père Noé, nous aurions été condamnés à être des esclaves. Avec donc ce paradoxe, comment se fait-il que vous prétendez nous avoir libérés de l'esclavage des Arabes et des Arabisés, alors que vous-même, vous vous appuyez sur un texte beaucoup plus ancien que l'islam pour, en quelque sorte, fonder la légitimité de cette autre chose dont on ne parlait pas et qui était donc l'esclavage par l'Atlantique. Cette théorie de la malédiction des Cam n'a pas été seulement transmis aux élèves et aux futurs cadres intellectuels du pays dans des cours en Lingala, en Swahili, en Kikongo ou en Tiluba, mais il a été aussi mis en forme dans les langues vernaculaires, chanté dans les églises, chanté jusqu'au moment de l'indépendance et en quelque sorte devenu le quotidien d'une partie de la population. Vous ne serez donc pas étonné que dans la crise que traverse le Congo aujourd'hui, une fraction de l'opinion se demande, mais on se demande d'où vient cette interrogation, se demande si ce pays ne serait pas, ou si ce peuple ne serait pas un peuple maudit. Donc ce sont là des indications qui, je crois, sont très intéressantes pour nous, mais qui en même temps montrent la difficulté de l'entreprise. Parce que la chanson Salongo que j'évoquais tout à l'heure, on n'a pas arrêté de la chanter au moment de l'indépendance. On a continué de la chanter. Je dirais que d'une certaine manière, on a cessé de la chanter entre l'indépendance en 1960 et la prise du pouvoir par le général Mobutu, général futur maréchal Mobutu, en 1965. Et donc, lorsque, dans les années 1970, le régime de la Deuxième République décide de restaurer, si on peut parler ainsi, les traditions, l'authenticité africaine, eh bien, on va voir revenir cette chanson Salongo. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal dans les derniers mois à trouver des gens qui connaissent la version de la chanson que j'ai chantée tout à l'heure. La chanson est devenue celle-ci. Salongo Salongo Alingamosala, Salongo Salongo Alingamosala, Mobutu Mobutu Mobali Elombe, Mobutu Mobutu Alingamosala. Donc, on a expurgé en quelque sorte la thématique de l'esclavage, de ce chant de protestation contre le travail forcé, pour introduire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire l'évocation du chef de l'État, Mobutu, Mobali Elombe, ça veut dire le mec à quoi, à qui rien ne résiste et qui arrive à bout de tout. Et donc aujourd'hui, la majorité des gens que j'ai rencontrés, des vieux qui ont oublié le premier Salongo, des jeunes qui ont chanté le deuxième Salongo et des tout petits qui répètent ces chants fameux de cette époque. Par une sorte de paradoxe encore plus inquiétant, aujourd'hui au Congo, tous les samedis matins sont occupés par ce qu'on appelle le Salongo. C'est-à-dire, face à la défaillance de l'État, qui n'entretient pas les routes, ne fait rien par rapport à l'hygiène collective, ce sont les habitants du Congo qui payent des impôts à l'État, qui sont obligés de faire le Salongo tous les samedis matins avant l'ouverture des commerces vers 11h. Et quelquefois, on les voit, je ne sais pas si c'est par une sorte d'atavisme ou si c'est par une sorte d'ironie collective, répéter cette chanson, mais dans la deuxième version, la version expurgée des références à l'esclavage. Alors, qu'est-ce que on peut faire de tout ceci par rapport à l'histoire? Comment donc passer de tout ceci vers une histoire des esclavages au Congo? Cette histoire, je dirais, menée du point de vue des Congolais, est une histoire encore très difficile. L'histoire purement extérieure a déjà en partie été écrite. Elle a été écrite dans un livre publié en 1929 par un missionnaire capucin. Il y a une sorte de rivalité entre les pères de Skeut qui se rapportent à l'État belge et les pères capucins qui sont un ordre beaucoup plus ancien, mais qui, dans l'histoire du Congo, sont associés à la pratique de l'esclavage. Mais l'ironie de l'histoire fait qu'au XXe siècle, les choses ont changé, et donc un prêtre du nom de Dieudonné Rinchon, un père capucin, va publier d'abord en édition privée et puis en édition publique en édition privée 1929, édition publique 1931, un livre au titre éloquent, La traite et l'esclavage des Congolais par les Européens, histoire de la déportation de 13 250 000 Noirs en Amérique. C'est un livre important et c'est un livre qui a fait date, puisque à l'édition officielle en 1931, le livre a eu les honneurs d'un compte-rendu de 3 pages dans les annales d'histoire économique et sociale, annales dont vous savez que c'est l'ancêtre de nos annales actuelles. Donc cette histoire extérieure est faite dans une large mesure, quoique on puisse contester soit les chiffres, soit les réseaux que ces auteurs ont mis en place. Quant à l'histoire intérieure, elle reste encore très difficile à construire parce qu'il y a des pesanteurs idéologiques qui pèsent sur la construction d'une véritable histoire. Et ces pesanteurs sont d'autant plus lourdes que nous en héritons en partie à partir de figures intellectuelles et politiques de très haut niveau. C'est d'abord cette idéologie communautaire qui doit beaucoup, entre autres, je prends celui-là exprès, à Julius Nyerere. Julius Nyerere est donc cet homme du Tanganyika, considéré comme le père de la nation, qui a conduit le Tanganyika à l'indépendance, mais qui a réussi à combiner le Tanganyika et Zanzibar dans un seul État appelé justement la Tanzanie. Julius Nyerere a voulu lancer dans son pays un socialisme, mais un socialisme qui ne soit pas marxiste, qui ne soit pas social-démocrate et qui soit, entre guillemets, africain. Et pour ce faire donc, il a inventé une vision du passé qui flattait beaucoup, que dis-je, qui flatte encore beaucoup un nombre significatif d'Africains. C'est donc l'idée selon laquelle la société traditionnelle africaine est une société de parité, d'équilibre et d'égalité, égalité entre les générations, les vieux et les jeunes, égalité entre les genres, égalité entre les différents métiers, agriculteurs, éleveurs, artisans, bref, une société d'équilibre et d'égalité, lesquels équilibre et égalité auraient été rompus par la colonisation, et il faudrait donc essayer de revenir à cet âge d'or. Dans un tout autre domaine, le maréchal Mobutu Sese Seko, 10 ans plus tard, au début des années 70, va lancer sa philosophie de l'authenticité, mais une philosophie très ambiguë, parce que lui aussi parle de communautarisme passé, mais en même temps, il évoque la dimension politique en termes de Mokonzi et les autres. Mokonzi, nous y reviendrons tout à l'heure, c'est le chef. Mais le chef, ça peut être le chef politique, ça peut être l'homme qui a accumulé suffisamment de richesses pour drainer derrière lui des dépendants et exercer un pouvoir de fait. Et donc, il va expliquer que, évidemment, nous sommes tous égaux, nous étions tous égaux et nous devons y revenir, mais en même temps, il y a les Bakonzi et puis les autres. Moi, je ne partage pas du tout cette lecture lisse, propre et consensuel de l'histoire. Je pense, par une sorte de croyance qui ne se discute pas, que la contradiction et les contradictions sont au cœur de toutes les sociétés. Et que donc, ce qui est le moteur de l'histoire, ce n'est pas la répétition d'une prétendue convivialité, mais la résolution de conflits successifs qui opposent des intérêts divergents. Et c'est là, évidemment, que nous retrouvons l'esclavage. Alors, que sait-on ? Oui. Que sait-on et que ne sait-on pas de cette histoire qui, encore une fois, reste à construire, puisque, comme je l'ai dit, nous n'avons aucun travail digne de ce nom dans l'espace congolais et peut-être même en dehors du Congo. Le cas de l'Angola étant un cas différent. Ce que l'on sait d'abord, c'est que il a existé, alors ce que on a du mal à nommer, soit des formes intérieures d'esclavage, soit je préférerais une expression que nous devons à un historien de la Guyane anglophone, Walter Rodney, il existait des formes d'oppression sociale. Il me semble que cette formule est beaucoup plus ouverte que la formule de l'esclavage et permet justement de construire des combinaisons et des dynamiques beaucoup plus fines et beaucoup plus complexes que celles qui reviendraient simplement à la problématique des pierres d'attente. Ces formes d'esclavage interne sont visibles aussi bien dans les sociétés lignagères que dans les sociétés étatiques. On va revenir à la carte du Congo, décidément. Bon. Alors, on pourrait dire d'abord que il y a des formes d'oppression collective, bien connues dans l'ensemble de la zone forestière, qui donc a mis en contact, a mis en relation, mais aussi en opposition conflictuelle, des groupes humains connus dans tout cet espace sous le nom de Twa, et les diverses populations qui se sont constituées en espace politique et qu'aujourd'hui on désigne sous des ethnonymes qui ont une valeur historique plus ou moins acceptable. C'est donc des formes de domination collective de groupes par rapport à d'autres groupes et qui vont de pair avec toute une série de choses, notamment des échanges inégalitaires de biens, bien sûr, notamment des formes de relations inégales, en particulier sur le plan matrimonial. Mon père est originaire de cette région, où je n'ai plus mis les pieds depuis l'âge de 2 ans, et il explique volontiers que lui appartient aux gens libres de cette région et que sa famille, son lignage, avait dans sa dépendance un grand nombre de ses toits, donc le long du lac Léopold II, devenu lac Maïndombé. Alors, ça, c'est pas des discours d'aujourd'hui, puisque le pauvre homme est mort il y a quelques années, mais à un certain moment, son enfant étant devenu historien, il ne parlait plus de ces questions-là. Mais avant cela, il expliquait volontiers que être Ntomba et être toi, ça n'est pas du tout la même chose. Parce que, explique-t-il, je prends ça volontiers parce que ça nous permettra d'aller vite avec les choses dont on parle aujourd'hui, si par hasard un Tomba rencontre dans la forêt un toi, celui-ci doit dégager de la route pour qu'il passe. Si un garçon, s'il vient à un garçon, un Tomba, l'idée de violer une fille toi, il n'y a pas viol. Et il n'y aura pas compensation. Un toi veut échanger des biens avec un tomba, c'est à lui, le toi, de déposer quelque part la marchandise qu'il a à disposition. En général, le produit de la chasse, des produits de la cueillette, le miel et autres. Et l'autre prendra ce paquet de marchandises et mettra en échange ce qu'il estime être la valeur de ce bien. Avec donc ce que les économistes aiment appeler l'échange inégal dans sa forme la plus caricaturale, puisque à la limite, il peut prendre ses biens et ne rien laisser en échange. Alors, ce système-là, qui est essentiellement un système de la zone forestière, qu'on retrouve aussi d'ailleurs au Rwanda, au Burundi, un peu en Ouganda, un peu en Centrafrique, un peu au Cameroun et un peu au Congo. Ce système continue de produire des effets aujourd'hui. C'est-à-dire que le mélange des groupes est tel qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui se disent « toi », donc du fait de cette identification des personnes par référence au groupe ethnique ou à la tribu à laquelle ils appartiennent. Et donc le fait qu'ils soient connus comme des Toits fait d'eux, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, des citoyens de seconde zone. Comme dans d'autres sociétés esclavagistes, les descendants des esclaves sont des citoyens de seconde zone. Les choses font que il y a un mouvement de population extrêmement important. Et donc, à Kinshasa, nous avons beaucoup de ces Toits qui sont, je n'ai pas pensé malheureusement à avoir une carte de Kinshasa, qui sont relégués dans les quartiers les plus insalubres de la ville, où en période de pluie, notamment maintenant, ces maisons basses, mal protégées de la pluie, on y voit l'eau monter à peu près jusqu'à la hauteur de la hanche pour de grandes personnes, et donc créer des problèmes. À l'université de Kinshasa, nous avons quelques, je ne sais pas si c'est en termes de centaines ou de dizaines, quelques étudiants Toits, que rien ne distingue des autres étudiants par la taille, par la morphologie, mais dont on sait qu'ils sont d'origine Toits parce que les papiers d'identité demandent que l'on mette son origine. Et qui sont donc, mis en écart, mis en quarantaine par leurs camarades, qu'il s'agisse d'échanges de notes de cours, qu'il s'agisse de préparation d'exposés en commun, qu'il s'agisse évidemment des relations d'amitié ou d'amour avec leurs camarades. Ça, c'est un héritage de cet esclavage ancien, car nous savons que l'esclavage externe dans cette façade ou dans l'autre façade ici, écartait naturellement les petits hommes. Dans la forme individuelle, je suis obligé d'aller un peu vite, esclaves intérieurs, ça n'est pas nouveau par rapport à ce qu'on sait ailleurs, ce sont soit les criminels, soit des personnes qui, dans ces économies marchandes, ont accumulé des dettes et sont incapables de payer leurs dettes, donc ils se mettent en gage ou ils mettent des gens en gage qui, à défaut de remboursement, finissent par devenir des esclaves sur un très très long terme, soit encore des étrangers. Alors, quelques notations à ce sujet. En 1965, j'ai rencontré à Lyon un camarade étudiant congolais. Nous recevions une bourse modeste, enfin pour l'époque ça nous paraissait suffisant, de l'ordre je crois de 400 ou 500 francs nouveaux qui permettaient de vivre, d'acheter des livres et de vivre de manière décente. Et cet ami était constamment en manque d'argent. Alors, on a fini par lui demander, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? On espère que tu n'as pas, comment tu ne joues pas à des jeux de hasard ou que tu ne fréquentes pas des endroits pas fréquentables pour des jeunes gens venus pour les études. Donc, il va nous expliquer, après de longs et de très longs interrogatoires, qui montrent donc la douleur qu'a une personne, l'incapacité dans laquelle elle se trouve de dire son histoire. Et puis il a fini par nous dire, écoutez, une grande partie de ma bourse, je l'envoie au Congo pour racheter la liberté de mes parents. Nous sommes en 1965. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Avec la naïveté de jeunes gens de 18 ou 19 ans qui découvrent que dans cet État indépendant, libre, démocratique, il y a encore des gens qui sont en esclavage. Il dit, ben, nous sommes esclaves, ma famille est esclave depuis plusieurs générations. On n'a jamais eu les moyens de payer la dette qui est à l'origine de notre servitude. Le fait que je suis en France, je peux chaque mois envoyer 200, 300 pour racheter la liberté. Donc il y a ces formes que l'on connaît partout ailleurs en Afrique de cet esclavage lignagé dans lequel l'esclave est considéré comme un non-être, un étranger par rapport aux lignées. Il est considéré comme une personne dangereuse. Lorsqu'il y a des histoires de sorcellerie ou autre, c'est d'abord en sa direction que l'on regarde. Il est considéré aussi comme une personne malfaisants, et notamment la question du mélange du sang, le sang d'une femme non esclave et d'un homme issu de l'esclavage étant considéré comme être un sang impur et générateur de malheur pour celui dont le corps est habité par ce sang-là. Les formes externes, nous en avons déjà parlé, donc l'esclavage par l'Atlantique, l'esclavage par l'océan Indien et l'esclavage par le Soudan nilotique. La grande question que nous avons et qui n'est pas résolue, c'est d'abord le moment, la manière, les modalités et les procédures de connexion entre cet esclavage externe et ce courant qui vient de l'intérieur. En dehors des hypothèses de la pierre d'attente, il nous appartient de reconstituer historiquement, donc à des moments particuliers, et si possible au moment de commencement, comment tout cela s'est passé. La grande question, c'est avec quelle source on va faire cette histoire. L'autre chose qui est importante, c'est que on aurait tort, en suivant le discours que je vous ai évoqué des arabisés et autres, de dire qu'il y a d'un côté l'esclavage. Ce mot esclavage ne me convient pas. Je préfère le mot enslavement, la mise en esclavage, en langue anglaise, menée par les Européens, l'esclavage lié à l'océan Indien et cet autre esclavage-ci. En fait, on se rend compte qu'ils finissent par faire bloc, par faire ensemble. Les recherches menées en Amérique du Sud et notamment au Brésil montrent que dans certaines communautés d'esclaves, les langues que l'on parle sont des langues bantoues de cette région-ci, à la limite du Congo et de la Centrafrique. Ce qui nous donnerait donc une idée si, de ce qu'on pourrait appeler la frontière orientale de la traite atlantique. Cette autre traite ici, ben, on peut suivre ses péripéties par la langue swahili. Nous savons que dans les années 1890, le swahili est parlé dans une grande partie de cette région du Congo. Et nous savons même qu'un certain nombre des villes dont vous voyez les noms ici, Kisangani, Kindu, étaient des villes dans lesquelles le swahili était la langue par excellence des gens bien, et que ce qu'on appelait usta arabu, c'est-à-dire la manière d'être des Arabes, donc par l'habillement, par l'alimentation, par le langage, était justement en quelque sorte l'idéal social de ces citadins, on peut les appeler déjà comme ça, qui jalonnaient les routes, les caravanes de la traite esclavagiste. Et puis, en direction du Soudan, on commence à se rendre compte que, ben, comme aujourd'hui, n'est-ce pas, toutes ces régions sont des régions de très grande circulation, que l'une des pratiques sur lesquelles les ethnologues de la fin du 19e siècle, début 20e, se sont attachés comme quelque chose de singulier, d'original, d'intéressant. Donc l'existence de ces communautés dites d'hommes léopards, sur lesquelles je crois qu'il y a des films de Hollywood, en fait, ce sont des groupes de résistance à la mise en esclavage au moment où les réseaux de la traite soudanienne et les réseaux de la traite indo-océanienne commencent à se croiser dans cette région, avec donc, comment dire, des effets extrêmement redoutables sur la vie des gens. Alors, je voudrais terminer ça par deux ou trois questions sur ce qu'on ne sait pas. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas encore. Donc, l'une des questions qu'il faudrait élucider, c'est donc la géographie historique de l'esclavage en Afrique centrale. Comment ces zones se sont-elles constituées? Quelles ont été les dynamiques de leur mise en place? Quels ont été les mécanismes de leur fonctionnement? Des réseaux, des relais? Est-ce que ces réseaux dans cette région fonctionnent de la même manière que dans cette autre et dans cette autre-là? Et quelles ont été les transformations sociales qu'elles ont suscitées? L'ethnologie coloniale est évidemment trompeuse, parce qu'elle cherchait des tribus, elle cherchait des ethnies, et elle ne voyait pas des groupes sociaux. Or, les groupes sociaux, nous les avons. Donc, j'ai évoqué avec vous tout à l'heure le fait que, ici, à Kisangani, existait, comment l'appeler d'ailleurs, une élite, un groupe dominant, parlant la langue swahili, dans laquelle on trouve donc ce qu'on appelle les arabisés, le mot est très malvenu, avec une composante raciste évidente, qui étaient en fait très souvent, très rarement des arabes, lesquels naturellement préféraient rester sur la côte, le long des îles qui sont répandues ici, et ceux qui entraient donc à l'intérieur, c'était soit des métis d'arabes et des africains de ce Sahel, de cette côte, soit simplement des marchands africains. Comment d'ailleurs sont-ils devenus marchands? Comment ont-ils fait pour entrer dans ces réseaux ou dans ces relais de la traite qui avaient en fait en commun le fait de parler arabe et d'être peu ou prou de religion islamique? Donc cette géographie de la traite en Afrique centrale reste encore une géographie très fortement méconnue, et d'autant plus méconnue qu'aujourd'hui, dans la représentation que les gens ont d'eux, tout en disant que le Congo est une terre qui était appelée à devenir une nation, mais les gens se réfèrent non pas à une vision très très large, mais ils ont en quelque sorte réduit de manière extrêmement restrictive l'espace de leur socialité ou de leur sociabilité à des espaces ethniques. Donc on est confronté entre l'existant d'aujourd'hui, les représentations qui l'accompagnent et ce que nous, l'histoire nous permet de supposer, c'est-à-dire l'existence de réseaux beaucoup plus larges avec des mécanismes multiples d'intégration. Ça me semble être l'une des choses les plus importantes à aborder. Et puis il y a les hiérarchisations de la société. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce concept de Mokonzi, que l'on trouve d'ailleurs un peu dans la variante de Salongo que j'ai chanté tout à l'heure, parce que Mobutu est chanté comme Mobali Elombe, donc le gars à qui rien ne résiste, ou comme Mokonzi Ngenge, c'est-à-dire le chef qui brille et à qui rien ne résiste. Or, ce concept de Mokonzi est visiblement un concept d'apparition relativement récente. La traduction par chef est évidemment trompeur. On pourrait dire plutôt un grand homme ou un homme riche. Et la richesse de ces Bakonzi, notamment le long du système fluvial congolais, dans la zone forestière et peut-être jusque à la limite de l'actuelle ville de Kinshasa, c'est que c'est un homme qui a à côté de lui un très grand nombre de dépendants, hommes et femmes, et qui est supposé entretenir des relations matrimoniales avec beaucoup de femmes, et qui possède un très grand nombre de biens. Ceci n'est pas une reconstitution formelle ou abstraite des historiens. Nous possédons, dans les années 1870-1880, des descriptions assez précises de ce qui se passe sur cette route. À Kinshasa, le fleuve Congo cesse d'être navigable et il ne le devient que à l'embouchure. Donc les caravanes négrières et post-négrières traversent la forêt par ce qu'on va appeler la route des caravanes, qui en fait n'est pas un boulevard, c'est une série de pistes. Et nous avons des exemples de gens que l'on décrit dans cette période comme ayant avec eux plusieurs centaines de dépendants qui les accompagnent dans le commerce, et comme étant, dotés de plusieurs dizaines et quelquefois de 200 ou 300 femmes. Et donc, ce système-là, ces dynamiques de l'extérieur liées aux dynamiques intérieures ont produit donc toute une série de phénomènes que la colonisation n'a pas toujours détruits. À titre d'exemple, ces fameux Arabes et Arabisés, en fait donc des musulmans, avaient ceci en particulier qu'ils étaient riches, qu'ils connaissaient les routes du commerce, qu'ils pratiquaient l'écriture, le calcul et l'écriture. Et donc, nous avons cette chose très étonnante qu'entre les années 1860 et la fin des années 90, la colonisation prétendument anti-esclavagiste va collaborer avec ce personnel du commerce négrier. Le plus fameux d'entre eux, Typotype, qui d'ailleurs ne s'appelle pas Typotype, c'est évidemment un surnom, qui est donc un métis d'arabe et d'africain, parlant parfaitement swahili, écrivant, il a d'ailleurs écrit sa propre autobiographie, est nommé par le roi Léopold II, sur les conseils de Stanley, il est nommé gouverneur de ce qu'on va appeler les Stanley Falls. Donc, et jusqu'à ce que dans les années 90, il y ait un antagonisme entre les deux. Donc, dans le processus de la colonisation, il n'y a pas, contrairement au discours des Pères Blancs, de Lavigerie et d'autres, et des Pères de Scott, il n'y a pas la mise en pratique d'un processus d'arrêt du phénomène esclavagiste. Il y a en fait une sorte de partenariat et de partage du pouvoir. Les Swahilis finiront par être dégommés, mais dans la mémoire des gens aujourd'hui, cet esclavage, cette exploitation précoloniale et l'exploitation de ce que j'ai appelé la première colonisation, donc la colonisation léopoldienne, avec tous ces abus énormes que nous avons racontés dans le film « Le roi blanc, le caoutchouc rouge, la mort noire », dans la mémoire des gens aujourd'hui, une mémoire qui gagnerait à être recueillie très vite, il y a une assimilation parfaite entre ce système lié à l'espace indo-océanien, ce système lié à l'espace nilo-soudanien, et donc cet esclavage qui, dans les années 1885, 1906-1908, va donc écraser la région forestière. Je ne voudrais pas terminer, je suis désolé d'avoir été obligé de réduire mon propos, je ne terminerai pas sans évoquer justement les conflits et donc la question de la résistance. Il n'y a pas d'esclavage sans résistance à l'esclavage. La question pour nous est de voir sous quelle forme ces résistances apparaissent. Évidemment, je passe sur un fait qui est bien connu, et nous avons une grande spécialiste de l'Angola ici avec nous, sur ces phénomènes qui, le long de cette côte, ont vu émerger des figures prophétiques qui se relient à une interprétation audacieuse. Aujourd'hui, on dirait théologie de la libération. Une interprétation audacieuse des Écritures pour dénuer à la mise en esclavage des Africains par les Européens aucune espèce de légitimité. Mais cette figure-là est assez bien connue. L'autre figure qui resterait à étudier, c'est que la fixation territoriale liée à l'ethnicité, que l'on trouve donc dans le Code de la nationalité aujourd'hui, cette fixation territoriale interdit absolument de penser l'un des phénomènes liés à l'esclavage interne, c'est-à-dire l'extraordinaire migration intérieure de gens qui partent d'est vers l'ouest, du nord vers le sud, etc., qui se mélangent constamment parce que certains sont en fuite, d'autres sont en chasse, et tout cela crée un tissu extraordinairement complexe. Jan Vincina, notre ancêtre en matière d'ethnologie, d'anthropologie et d'histoire en Afrique centrale, remplit son livre « Introduction à l'ethnographie du Congo » par la même formule. C'est tellement complexe qu'on ne peut pas dire qui est venu, qui est parti où, et que la formule même des migrations paraît une formule inappropriée pour désigner donc les dynamiques géographiques qui se développent. Et puis, je voudrais dire un mot sur un travail que je mène en ce moment avec d'autres, qui est donc la réévaluation d'une de ces religions du salut, religion du XXe siècle, née en 1921, mais qui explicitement se rattache à ces théologies libératrices que l'on voit apparaître au XVIIe et au XVIIIe siècle dans la région des Trois Congos, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa et Angola. C'est l'affaire de Simon Kimbangu. Lorsque Simon Kimbangu lance sa prédication en 1921, répond à l'une des questions que beaucoup de Congolais continuent de se poser aujourd'hui. La question de savoir, est-ce que vraiment, comme les missionnaires nous l'ont dit, est-ce que vraiment nous sommes une race maudite? Et donc, Simon Kimbangu répond dans une formule audacieuse. Un jour, au jour fixé par Dieu, l'homme noir deviendra blanc, le blanc deviendra noir. Alors, le résultat de tout cela, les travailleurs à qui on disait « va travailler pour le blanc » répond « mais le blanc va devenir noir et moi je vais devenir blanc, donc j'y vais pas ». Il y a donc un système de boycott du travail, de boycott des produits commerciaux, qui, en ces années d'immédiate après-guerre, va créer un vent de panique dans la colonisation au moment où nous sommes en 1921. En 1920, il y a eu la conférence de Bakou des peuples orientaux, au cours de laquelle le parti bolchevique a réuni les peuples dits orientaux, mais par Orient, ils entendaient aussi les peuples d'Afrique, pour dire il faut combattre l'impérialisme colonial qui ne serait qu'une variante du capitalisme. Et donc, dans le Congo de cette époque, l'administration a conçu que Kimbangu était une sorte de fil conducteur d'un complot bolchevique contre la colonisation. Tel n'était pas le cas. Il a été condamné à mort et finalement condamné à la prison à perpétuité jusqu'à sa mort en 1951. Mais de cette expérience est issu donc un renversement intéressant de la problématique des rapports entre noirs et blancs. Comme j'ai beaucoup chanté aujourd'hui, je voudrais finir aussi par un chant. C'est un chant très fameux, dont on ne connaît pas la date. Donc, je disais tout à l'heure que les langues véhiculaires, c'est donc le Kikongo, le Lingala, dans une grande partie du territoire, le Swahili le Swahili qui va de là jusqu'ici et le Chiluba dans cette région. Ce qui se passe, c'est que le Lingala, qui est devenu la langue de l'État colonial, la langue de l'administration et la langue de la force publique, est devenu aussi, par les besoins de la cause, la langue de ceux qui veulent parler, la langue de la résistance. Donc, par exception, ce chant kimbanguiste est un chant en Lingala. Donc, cela veut dire que sa mise en place correspond à la période probablement de la fin des années 30 et du début des années 40. Donc ces chants disent ceci. Moindo, moindo, tose pela tango e koki, bolozi boyo, bozali kosila, tose pela tango e koki. C'est un chant qui se chante jusqu'aujourd'hui et qui veut dire ceci. Homme noir, homme noir, Tosepela, réjouissons-nous, l'heure est venue. Bolosi. Bolosi, c'est la souffrance. La souffrance qui ne vient pas de soi, de la maladie, mais la souffrance qui vient de ce que on vous impose des charges, des contraintes auxquelles vous ne pouvez pas échapper et qui donc produit sur vous cet effet de souffrance physique, psychique, psychologique, morale. Et donc le chant dit « Bolosi boyo bozakosila ». Ta souffrance est en train de se terminer, réjouissons-nous, l'heure est venue. Il me semble que dans la longue durée de l'histoire de l'esclavage, ce chant nous invite à ne jamais oublier ce volet de l'histoire sociale, intellectuelle et politique de l'esclavage, qui est donc le volet en Afrique même, et pas seulement dans le Nouveau Monde, et pas seulement en Irak, ou en Inde, ou en Turquie, ce volet donc de la résistance de ces communautés expatriées par la force, et qui, de toute évidence, n'ont jamais véritablement accepté, non pas leur esclavage, mais leur mise en esclavage. Voilà, mesdames, messieurs, ce que j'avais à vous dire, avant que nous passions à la séance redoutable des questions, observations et réponses. Merci de votre attention.
Merci pour votre brillant exposé. Je m'appelle Solo Nyaré. Je voulais juste poser une précision sur le titre que vous avez donné. Négrier en terre d'islam de Jacques Hers, vous avez dit.
Oui.
Ok. Parce que je connais un autre livre qui se titre ainsi, Esclavage en terre d'islam de Malik Chebel. Mm-hmm.
Tout respect dû à un maître, hein. J'ai dit que il a été mon prof à l'école normale et grâce à lui, j'ai obtenu sans peine l'agrégation. C'est un homme qui a écrit un livre très, très intéressant sur le commerce italien en Méditerranée et qui, notamment dans ses travaux, a essayé de montrer que très tôt, il y a eu en Méditerranée une concurrence, on s'en serait douté, entre les États chrétiens au nord et tous ces États, concurrence pas seulement pour des questions religieuses, mais parce que au XIVe, XVe siècle, peut-être déjà à la fin du XIIIe, la grande affaire de tout cet espace, c'est l'or du Soudan, lequel or donnait lieu à un trafic que nous connaissons bien vers l'Afrique du Nord, et lequel trafic de l'or était lié, évidemment, à un trafic d'esclaves. Et Jacques Hers expliquait bien comment les Européens ont multiplié des astuces pour se déguiser en arabes et en musulmans, ce qui d'ailleurs était facile, ce qui veut dire d'ailleurs que, c'est l'habit qui fait l'arabe et le musulman. Et donc, là, il a fait de bonnes choses. Et puis, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il y a eu en Méditerranée une concurrence, on s'en serait douté, entre les États chrétiens au nord et tous ces États. Concurrence pas seulement pour des questions religieuses, mais parce que au XIVe, XVe siècle, peut-être déjà à la fin du XIIIe, la grande affaire de tout cet espace, c'est l'or du Soudan, lequel or donnait lieu à un trafic que nous connaissons bien vers l'Afrique du Nord, et lequel trafic de l'or était lié évidemment à un trafic d'esclaves. Et Jacques Hers expliquait bien comment les Européens ont multiplié des astuces pour se déguiser en arabe et en musulman, ce qui d'ailleurs était facile, ce qui veut dire d'ailleurs que, c'est l'habit qui fait l'arabe et le musulman. Et donc,
Là, il a fait de bonnes choses. Et puis, on ne sait pas ce qui lui est arrivé.
De disposition naturelle chez les Africains à vendre des esclaves. Ce que j'ai appelé donc le détournement de la théorie des pierres d'attente. Et donc de dire, dans une formule qui paraît étonnante pour un historien, que lorsque les premiers Européens sont arrivés sur les côtes d'Afrique, ils ont trouvé des esclaves qui attendaient d'être vendus. Mais de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Nous avons des récits de voyage, nous avons des sources. Et pour l'historien, on ne peut pas parler contre les sources. On peut les discuter, mais on ne peut pas parler contre. Qui montrent que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et qu'il y a eu des périodes plus ou moins longues d'enlèvement, etc. Donc, il y a là cette chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Les historiens, qui ne sont pas d'ailleurs seulement africains, qui parlent donc de cet enslavement et non pas de slave trade. Les historiens disent que ce sont des processus qui se sont mis en place dans les relations extraordinairement complexes qu'il s'agit d'étudier au cas par cas et qui donc finit par reproduire l'esclavage, la traite atlantique telle que nous la connaissons. Et même la traite dans l'océan Indien, il n'y a pas des gens du Congo dans... aux Comores ou à Madagascar, ce sont surtout des gens de la côte, même dans l'océan Indien, on va dire que les formes que la mise en esclavage a prises là-bas n'ont rien à voir avec l'esclavage pratiqué par, on va dire, les Arabes, les Persans, les Indiens et quelques autres pendant des périodes très 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 longues. Donc c'est un livre de mauvaise foi.
Agnès Boganda, j'avais une question. Vous parlez de la République démocratique du Congo, mais en tant qu'historien, vous devez sûrement être très intéressé par, j'allais dire, l'ensemble de la région, parce que les mouvements que vous allez étudier ou que vous allez confier à vos étudiants vont forcément porter sur toute la région. Il ne faut pas se limiter à la structure étatique actuelle.
Oui.
Et puis j'avais une toute petite question. Enfin, les toits dont vous parlez, ce sont les mêmes toits que l'on trouve au Rwanda, c'est ça ? Ce sont les hommes de la forêt.
Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est... Bon. Je ne dirais pas peuple de la forêt parce que il n'y a pas que eux qui soient les peuples de la forêt. Disons, eux se considèrent comme les peuples de la forêt. Et aujourd'hui, ils se qualifient comme autochtones dans le vocabulaire des organisations internationales. Ce sont les mêmes qu'on va trouver au Rwanda, ce sont les mêmes qu'on trouve au Congo-Brazza, au Cameroun, etc. Alors, je suis passé un peu vite sur les Congos, mais j'ai expliqué tout à l'heure que du point de vue des Congolais, du Congo, en fait, les trois Congos forment une sorte de bloc. Évidemment, vu du Congo, ils ont tendance à considérer que c'est le Congo qui est le pôle de ce bloc. Et donc j'ai expliqué qu'il y a ces trois Congos, mais que par la force des choses, c'est dans celui-ci que j'ai fait l'essentiel de mon propos, en ayant rappelé tout de même le rôle de la baie de Luango au Congo, dont certains veulent l'inscription au patrimoine de l'humanité, et aussi les figures de l'esclavage, Kimpavita ou Anzinga, et le rôle d'un certain point ici que d'autres veulent aussi voir inscrit. Mais vous avez raison d'évoquer l'exemple de la Centrafrique, parce que le long de cet affluent du Congo, les populations ne viennent pas que, enfin les gens que l'on met en esclavage ne viennent pas que du Congo, ils viennent aussi de Centrafrique. Et donc, le Brésil dont je parlais tout à l'heure et dans certaines parties de la Caraïbe, on a trouvé des communautés où l'on parle ce qu'on pourrait appeler le proto-sango, c'est-à-dire cette langue de l'eau qui est devenue aujourd'hui le sango tel que nous le comprenons. Évidemment, dans une durée plus lointaine, beaucoup d'entre nous rêvent le même rêve qu'a fait cette personne dont vous avez la lourdeur de la tâche de porter le nom, Barthélemy Boganda, qui rêvait donc du jour où l'Angola, le Congo, le Rwanda et le Burundi, la Centrafrique, le Congo, peut-être le Gabon et une partie du Cameroun, se donneraient la main et formeraient au cœur de l'Afrique une sorte de grande fédération fondée sur les idées de liberté, en contradiction avec cette trop longue histoire d'esclavage et de domination, les idées d'égalité et bien sûr de solidarité. L'histoire du Congo n'est qu'un cas, mais c'est un cas extrême qui illustre donc la manière dont trois axes meurtriers majeurs se sont convergés, se sont rencontrés dans un seul espace en produisant donc des effets extraordinairement négatifs, lesquels ont été prolongés par la première colonisation 1885-1906, lesquels ont été prolongés depuis les années 60 par le système massif de prédation qui continue aujourd'hui. Donc les ressources du Congo aujourd'hui, une partie de ces ressources passe par l'Ouganda, le Kenya jusqu'à Mombasa, une partie de ces ressources passe par le Rwanda, un peu moins par le Burundi, via la Tanzanie jusqu'à Dar es Salaam, exactement comme fonctionnaient il y a 150 ans les routes de la traite esclavagiste.
Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur la pseudo-amnésie de la mise en esclavage au niveau de la République démocratique du Congo et le fait qu'il n'y a pas cette situation dans les autres pays?
C'est vrai qu'il n'y a pas cette situation ni au Congo-Brazza, ni en Angola, alors que l'une des premières histoires de la traite transatlantique, avec une volonté de chiffrage, a été écrite par un prêtre capucin au Congo dès 1929. Et a été reconnu par les historiens. J'avais amené une copie de ce compte-rendu qui est élogieux, enthousiaste. Et d'ailleurs, Lucien Febvre se fait un honneur d'introduire ce compte-rendu. Donc c'est un texte fondamental. Moi j'ai l'impression que, en faisant bref, le Congo moderne, donc le Congo colonial, a vécu donc sur une sorte de mystification de l'histoire qui était et qui reste extraordinairement simpliste. Donc avant nous, tout est mauvais, il n'y a rien. Il y a les Arabes et il y a la sauvagerie. Nous, on arrive, on élimine les Arabes, on commence à civiliser et on fait ce pays. Comment dire l'enseignement de l'histoire, donc moi l'histoire que j'ai apprise jusqu'au moment de quitter le Congo, c'est que vous étiez des sauvages et des damnés de l'Ancien Testament dans les écoles missionnaires. À l'école laïque, on disait vous étiez des sauvages, tout court. Et donc, comment dire, ce matraquage intellectuel s'est poursuivi jusque à l'indépendance. Je n'ai pas signalé cette affaire. Mais à l'indépendance, le discours que prononce le roi Baudouin et le discours que prononce le premier président de la République congolaise, Joseph Kabutu, sont exactement du même tonneau. Le Baudouin dit « Nous vous avons civilisé, voilà, maintenant nous pouvons vous émanciper ». Et Kassavubu dit « Merci de nous avoir civilisés, nous ferons attention à ne pas vous décevoir ». Il y a un homme qui va dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça s'est pas passé comme ça. » Et qui va rappeler donc cette longue histoire dans laquelle il y a l'esclavage et dans laquelle il y a, au nom de la lutte contre l'esclavage, un système qui n'était pas très différent. Je voulais vous amener une BD faite par des BDistes congolais qui commence par ça et qui montre donc que c'est ce discours sur l'histoire que c'est ce discours qui a été une sorte de révolution qu'on a voulu enterrer durablement. L'université de Kinshasa date du milieu des années 50. Le département d'histoire n'a été fondé qu'au début des années 70. Et pendant longtemps, jusqu'au début des années 80, on considérait que les Congolais n'avaient pas l'esprit historique. Et donc, moi-même, j'ai été candidat à un poste à cette université. J'ai été récusé parce que, pensait-on, j'introduirais les germes d'une laïcité malfaisante et d'une lecture de l'histoire malvenue. Et donc, jusqu'aujourd'hui, mes collègues sont tous dans une lecture de l'histoire qui est un peu précoloniale, coloniale, postcoloniale. Or, ce qu'on appelle précolonial pour nous, c'est en réalité un temps qui est discontinu, avec des processus extrêmement hétérogènes, internes et externes, dans lesquels il y a la mise en esclavage et les traites négrières. Et donc, aujourd'hui, il y a une sorte de consensus pour ne pas parler de ce passé, parce que ça va nous diviser. Donc, ne pas en parler, même lorsque l'actuel chef de l'État, en rupture totale avec l'héritage de Patrice Lumumba dont il se réclame, va, au cours de sa première visite officielle à Bruxelles, faire un discours au Sénat faisant l'éloge de Stanley, de Léopold II, de Theiss et de ces hommes qui ont donné leur vie pour que le Congo soit ce qu'il est devenu. Et de la même manière, au Congo même, il y a eu une espèce de pudeur, de honte ou de peur à soulever cette histoire qui, évidemment, n'est pas une histoire à sens unique, parce qu'on verra qu'il y a les autres, mais il y a aussi toutes les dynamiques locales qui se sont greffées sur la traite, dans lesquelles certains ont profité de la traite, et surtout les retentissements actuels de tout cela. Mais ces retentissements sont là. Je me plais souvent à citer des proverbes que l'on croit venus de notre fort intérieur, mais qui sont des proverbes issus de la traite. Comment, par exemple, accepter de dire que « Ah, biso baindo, nzamba aloka biso, ah, nous les hommes noirs, Dieu nous a maudits ». C'est le mythe de Cam. Ou de dire « Ah, tandengenini ». Quoi que l'on fasse, le noir est noir, mais le blanc, il est blanc. Donc, il faut faire un travail, je suis d'accord avec vous, il faut une sorte de pédagogie et de combat pour l'histoire que nous sommes en train de mener pour développer les études, développer les recherches et montrer peut-être que, justement, peut-être que dans... je ne veux pas tomber systématiquement dans un éloge de la longue durée, mais on peut penser que l'histoire de la violence au Congo doit être une histoire de la longue durée. Et donc ne pas se contenter pour expliquer ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, ne pas l'expliquer par des considérations le limiter à notre présent. Parce que lorsque vous faites des enquêtes, donc pour le roi blanc, le caoutchouc rouge et la mort noire, nous avons enquêté dans cette région, qui est donc l'une des régions, le fleuve Congo navigable, l'une des régions pourvoyeuses de la traite atlantique, mais qui est aussi l'une des régions plus ou moins touchées, on ne sait pas jusqu'où, par les réseaux nilo-soudaniennes, peut-être aussi, ça n'est pas loin de Kisangani, par ces réseaux. Donc dans ces régions, il y a eu la traite, il y a eu le domaine de la couronne et les compagnies concessionnaires du premier de la première colonisation. Ensuite, c'est devenu, voilà, une région de recrutement de la force publique, recrutement qui se faisait sur le modèle, débarque des soldats, on avise un gars qui est assez grand, robuste, à l'air quand même, rien à dire, il devient soldat, et région dans laquelle aussi, à partir
des années 1996-1997, il y a eu toute une série de pillages, de violences. Je vais utiliser le mot qui est en bonne place dans l'histoire de l'Europe, une série de brutalisation des personnes, qui fait que lorsque nous avons mené cette enquête dans un village complètement paumé, pour parler de Léopold II, les gens nous disent, mais cette chose-là, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé lorsque les soldats ougandais sont venus ici et qu'ils ont massacré tous les pères de famille, pris avec eux tous les jeunes gens et les enfants qui n'avaient pas d'enfants, et violé toutes les femmes du coin. Ce que faisaient à la fois les administrateurs de la période coloniale et bien sûr les trafiquants d'esclaves, qui violaient ou ne violaient pas, mais prenaient les femmes pour les mettre dans leur dépendance. Il y a donc une historiographie longue de ces phénomènes violents qui aiderait sans doute à comprendre ce qui se passe et qui, je pense, disqualifierait la réduction de ces phénomènes à des problèmes purement humanitaires et des problèmes de droits de l'homme. Ça veut dire que nous avons un très très gros travail à faire en matière d'histoire. Mais à force de plaider pour l'historisation d'un certain nombre de questions, on a l'impression que les oreilles commencent à s'ouvrir et que les gens comprennent qu'il y a un gros travail à faire. Et ce travail-là, si nous le faisons, va nous réconcilier avec nos voisins du Congo, avec lesquels aujourd'hui les politiques ne s'entendent pas, qui ont connu par rapport à l'Atlantique exactement les mêmes problèmes que nous, avec nos amis de l'Angola, avec lesquels pour le moment on ne s'entend pas beaucoup, qui eux aussi ont connu les mêmes phénomènes, et bien sûr avec nos amis de l'Ouganda, du Rwanda, un peu moins du Burundi, qui ont été aussi violentés par ces processus de mise en esclavage.
Il m'a semblé avoir compris tout à l'heure que vous aviez dit que les petits hommes n'étaient pas pris en esclaves. Et j'agrandis un peu la question en essayant de savoir si on arrive à déterminer les groupes qui ont été pris en esclaves et les groupes qui ont participé à l'esclavage, qui ont été... si on arrive à mettre des noms sur les personnes qui sont, quand on voit leur enrichissement, sur les... Est-ce qu'on arrive à situer des choses comme ça?
On arrive, pardon, pour la deuxième moitié du 19e siècle, à avoir des noms d'individus, d'entrepreneurs, qui ont fait ce trafic ou qui ont été les intermédiaires dans ce trafic. Donc, du côté de l'océan Indien, grâce au Maïcha, à cette autobiographie de type au type, ben, il décline tous les noms des gens qui étaient connus de lui comme faisant ce trafic. Du côté du Soudan nilotique, c'est beaucoup plus difficile. C'est un espace où il y avait beaucoup de gens venus de l'Europe centrale, beaucoup de musulmans venus de l'Empire ottoman, d'Albanie comme Mohamed Ali, ou de Turquie, ou des pays arabes, beaucoup d'Égyptiens aussi. Et donc tout ça est d'un très 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 grand flou, et c'est difficile d'avancer. Je peux vous raconter une histoire, d'autant plus que je ne le vois pas ici. Un de mes étudiants a voulu étudier, c'était dans les années 80, le rôle de la Turquie dans la traite esclavagiste en Afrique. Alors, lui, il voulait parler de l'Afrique. Il partait donc de cette hypothèse que cette traite-là, évidemment, s'appuyait sur un certain nombre de ports, port of trade, de la côte africaine, mais elle s'enfonçait très 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 loin dans l'intérieur. Et il fait l'hypothèse que Madame Boganda est là, que ça a dû toucher, bien sûr, le Sud-Soudan, l'actuelle République centrafricaine, le sud du Tchad, une partie du Cameroun, peut-être une partie du Nigeria.
Nous lui avons fait les papiers, donné de l'argent pour aller faire ses enquêtes. Et lorsqu'il s'est présenté au ministère de l'Intérieur pour obtenir l'accès aux archives, on l'a jeté à la porte comme un malpropre, en lui disant que la Turquie n'avait strictement rien à voir avec ce maudit commerce et que, par conséquent, il n'y avait aucune archive, qu'il n'avait rien à faire aux archives et d'ailleurs rien à faire en Turquie parce qu'il amenait des nouvelles qui risquaient de troubler l'ordre public. Donc là, on ne connaît pas. Mais la chose qui me semble intéressante, qui semble être intéressante, c'est que, sauf peut-être à Zanzibar et en Tanzanie, ce rôle d'intermédiaire ou de commerçant ou de capteur d'esclaves n'a pas débouché sur des phénomènes d'accumulation dans la durée. Non pas que ces gens, donc les fameux Mokonzi, non pas que ces gens n'aient pas voulu accumuler, mais je pense que la première colonisation, celle des années 1885-1906, a pratiqué aussi une sorte d'expropriation massive des biens que des gens du Congo pouvaient posséder. Et donc ces hommes sont tombés à rien du tout. On a fait une enquête encore pour des choses en cours. Essayer donc, le fleuve Congo est ici. Et donc nous avons ici au Congo, Kinshasa, au Congo-Brazza, et dans l'est du Gabon, un groupe, disons ethnique pour faire vite, le fameux groupe Teke. Ce groupe, à la hauteur de Kinshasa, contrôlait donc le terminus de la voie fluviale en étant installé à Kinshasa. Et en étant installé de manière assez fine à l'endroit où commencent les rapides de Kinshasa. Et ce groupe est celui auquel appartenait le fameux Makoko et auquel appartenait, en fait le Makoko était le roi à l'intérieur des terres et on ne le voyait pas, celui qui dirigeait le commerce était sur le site de Kinshasa. Et ce monsieur le plus connu s'appelait Ngaliema, littéralement chef de terre, Nga. En fait, ce chef de terre était aussi un intermédiaire dans le trafic esclavagiste, puisque les esclaves arrivés à Kinshasa devaient être parqués quelque part en attendant que les caravanes se mettent en place. Et il a gagné donc beaucoup d'argent. Et dans cette histoire complexe de réparation qui sent un peu le soufre, lorsque nous avons fait cette enquête pour mettre ensemble tous les peuples de langue et d'histoire teke, il nous expliquait que Stanley aurait dû être son esclave, enfin l'esclave de ses ancêtres. Il explique qu'en effet, Stanley a contracté une dette auprès de Ngaliema, une dette qu'il n'a jamais remboursée, et que dans les lois de la terre, le non-remboursement de cette dette vaudrait emprisonnement. Et donc il explique que lorsque Stanley a fait donc, je suis encore obligé de changer de carte, lorsque Stanley a fait ce long périple, donc ayant été aidé par les trafiquants musulmans pour aller de Zanzibar à Kisangani, lorsqu'il a commencé à descendre le fleuve, il a dû payer toute une série de choses. Payer des pirogues, payer des travailleurs, payer de la nourriture. Donc ça veut dire que le commerce négrier a généré une sorte d'économie marchande sur sa route. Et donc, ceux qui étaient situés au point de rupture de char à Kisangani et à Kinshasa étaient, en quelque sorte, les bénéficiaires de ce trafic. Et Ngaliema, donc, était riche. Il a prêté de l'argent à Stanley, ce qui lui a permis, donc, de recruter des travailleurs, des porteurs, des femmes pour préparer la nourriture, et donc affronter la forêt par des routes extrêmement difficiles. Et ce monsieur disait que si les historiens faisaient bien leur travail, il faudrait qu'on calcule ce que cet argent
en termes monétaires d'aujourd'hui, en y ajoutant donc 120 ans d'intérêt, ce que ça donnerait comme argent à donner aux descendants de Ngaliema. Donc ça veut dire que, contrairement à ce que nous voyons, donc le silence sur l'esclavage, en fait la société rumine un certain nombre de choses, des souvenirs, des anecdotes, des frustrations liées évidemment à cette période. Sur les pygmées, je n'ai pas bien compris. En fait, les pygmées, on ne les appelle pas comme ça, les toits, vivent en communauté, aujourd'hui en partie sédentarisée. Évidemment, dans la situation du Congo aujourd'hui, où les entreprises forestières se sont multipliées dans cette région, à la suite des guerres, la guerre de libération, les rébellions des années 98-2003, les attaques, l'entrée des troupes ougandaises et le pillage continu aujourd'hui des ressources pastorales et cynégétiques du Congo, ça veut dire que l'écosystème dans lequel vivent les pygmées est plus que menacé, il n'existe plus. Et donc nous sommes confrontés à un autre problème, c'est donc cette émigration vers les villes, une émigration de longue durée, forcément, des relations entre pygmées et non-pygmées, mais presque toujours dans le sens hommes non-pygmées, femmes pygmées, qui au bout de plusieurs générations donnent des gars et des filles qui me ressemblent et qui ressemblent à beaucoup d'autres, mais qui ont la tare sur leur papier d'identité d'être pygmées et qui sont donc ségrégées, victimes de racisme, de toutes sortes de choses qu'on peut parfaitement imaginer ailleurs. Par exemple, l'une des meneuses de ce mouvement de résistance est une infirmière qui a fait des études d'infirmière, Marie Kilo, qui a eu son diplôme, qui a été engagée dans un hôpital, mais du jour où il a été su qu'elle était, disons toi, aucun malade ne voulait être traité par cette femme. Elle a été virée de son hôpital, et idem pour les maçons, des tas de gens que nous connaissons par ailleurs. Donc nous avons un travail intellectuel important et un travail, c'est d'ailleurs ça ce qui définit le métier d'historien. Nous ne sommes pas seulement des gens de laboratoire, nous sommes aussi des citoyens engagés donc dans la clarification grâce à l'histoire d'un certain nombre de nos problèmes et aussi dans l'effort pour dénaturaliser les questions et leur donner leur dimension de faits qui sont advenus par hasard ou par des circonstances et par rapport auxquelles donc nous sommes capables de marquer des ruptures définitives.